Europe 1, 11h, 12h30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est donc le moment d'accueillir notre invité suivant sur ce dossier consacré au sommeil des plus jeunes. Bonjour docteur Arnaud Fersdorf.
Bonjour Mélanie, bonjour Julia.
Vous êtes pédiatre réanimateur et auteur de ce livre qui s'appelle « Votre enfant de 0 à 16 ans » aux éditions Attier Parents. Vous venez également de sortir cet autre livre « Sans activité pour préparer son enfant » chez le même éditeur.
Alors moi, oui.
Je suis sûre que parmi nos auditeurs, c'est certain, il y a des jeunes parents qui attendent vos conseils, mais qui attendent vos conseils comme si vous étiez le messie, hein. Vous le savez, j'en suis sûre, car un bébé, voire un enfant de 2 ans qui ne fait pas ses nuits, c'est tout simplement l'enfer hein, pour les familles. D'abord, est-ce que c'est très fréquent, ces troubles du sommeil, ces bébés, ces enfants qui ne font pas leur nuit?
C'est énormément fréquent. C'est une des causes de consultation les plus répandues, en particulier en ce moment, lorsqu'il y a un effet Covid, angoisse générale et tout ça probablement. Mais j'ai envie de dire, je veux rassurer les parents. Il faut rappeler qu'un bébé, c'est les parents qui vont tout de suite au départ. Hein, quand bébé est là, c'est pas dans le mode d'emploi hein, que bébé va pleurer. Il a que ce moyen-là pour s'exprimer vers ses parents. Eh bien, je rappelle aux parents, c'est vous qui vous calez sur le rythme de votre bébé. Et c'est pas le contraire. Parfois, j'entends l'un ou l'autre parent qui dit « laisse-le pleurer, c'est des caprices ». Ça, ça n'existe pas chez les enfants.
Ça n'existe pas, ça n'existe plus, parce qu'avant, c'est ce qu'on disait. Ouais. Longtemps.
C'était un peu ce qu'on disait, c'était l'éducation d'antan qu'on avait. Moi-même, j'ai subi ça.
Moi, j'ai même fait ça à mon grand de 12 ans, et je l'ai laissé pleurer 20 minutes, je l'ai torturé, en fait.
Mais parce qu'on nous conseillait ça à l'époque.
Hein. Et oui, il faut vraiment respecter le rythme du sommeil de l'enfant. Je rappelle qu'un bébé a un rythme qui est ultradien, c'est-à-dire qu'il est rythmé une tétée ou un biberon, je dors. Je mange, je dors. Il n'est pas rythmé encore en fonction de la mélatonine ou du soleil, etc.
Bien sûr. Docteur, on est d'accord que vous les voyez en consultation, hein, ces parents désespérés avec un enfant qui fait toujours passer nuit à 1 an, 2 ans. Et ce sont des conséquences qui sont vraiment pour toute la famille, hein, on est d'accord. Pas que pour le petit, parce que mal dormir, c'est pas très bon pour un enfant, mais c'est pas bon pour toute la cellule familiale. Hein.
C'est un cauchemar.
Pour le couple
j'ai
aussi.
J'ai envie de dire, je vois même des couples qui peuvent éclater à cause de ça. Le problème du sommeil, c'est que parfois les parents ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même attitude et ils oublient une chose essentielle. Moi j'aimais bien ce qui était dit avant sur la méditation, il faut s'écouter et il faut écouter son enfant. Et on est trop dans des contraintes, dans des contrats d'objectifs, dans des to-do list, etc., etc. Et on ne se rend pas compte qu'on a un petit bout. Un petit bout qui est là, qui est en train de se construire, qui a un cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, qui a un néocortex qui va se construire dans les mois, les années qui viendront. Laissons-lui le temps, écoutons-le.
Alors justement, je pense aux parents qui nous écoutent, ça veut dire quoi, lui laisser le temps? En gros, physiologiquement, un bébé est prêt à faire ses nuits au bout de combien de mois?
On va dire qu'un nourrisson va commencer à vraiment caler son rythme de sommeil en moyenne vers l'âge de 4 à 6 mois.
Ouais, pas les miens.
Ça laisse un peu du temps pour avoir des nuits difficiles en tant que parent. On se relaye, on peut avoir des tours de garde. Tout dépend aussi si on fait du cododo ou pas. Le cododo,
c'est très bien. S'il y a de l'allaitement ou pas aussi. Hein.
S'il y a de l'allaitement ou pas.
Vous êtes favorable au cododo?
Ah oui, c'est très bien. Mais je suis favorable à condition qu'on ne le fasse pas pendant 6 mois ou 1 an.
C'est combien de
Pourquoi temps Parce que après on a du mal à dropper l'enfant et à le mettre quand la maman reprend le travail ou si le papa reprend le travail. Enfin, il peut y avoir des conditions un peu compliquées. Et il faut rappeler que bébé qui dort dans la chambre des parents, si la maman allaite, ça sent le lait.
Et oui.
Partout. C'est comme nous, si on rentre dans une pizzeria et qu'on s'installe, ça sent bon la pizza, on a faim, on s'installe et on ne vous passe pas commande, vous allez avoir les crocs. Et ben, le bébé, il vit avec les sens, avec l'odorat, le pot à pot, etc.
Et ça le rend fou.
Et en fin de cycle, il devient fou, il sent le lait de sa maman. S'il est dans sa chambre, c'est un peu plus facile et le papa peut intervenir.
Ah, donc les mettre dans leur chambre, ça peut les aider vraiment
à dormir.
Au bout
de 3 mois, c'est pas mal de passer dans la chambre.
Mais un bébé,
peu à peu.
Par exemple, docteur, un bébé qui ne dormirait pas au bout d'un an, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une cause médicale?
Alors, bien entendu, le sommeil, le bébé qui crie, qui pleure, qui a des troubles du sommeil, c'est notre rôle de pédiatre, de médecin, et c'est pour ça qu'on les voit régulièrement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas autre chose. Alors il y a des causes psychologiques, nombreuses, qui ont été abordées. Une séparation, un déménagement, un problème économique, le Covid, le ceci, le cela, enfin des sources, il y en a plein. Mais bien entendu, il faut que nous, pédiatres, nous allions voir s'il n'y a pas une intolérance au lait, une allergie aux protéines de lait de vache, un reflux éventuellement. J'en profite pour rappeler que les reflux sont souvent surdiagnostiqués. Je vois des parents qui arrivent, qui ont fait un diagnostic internet. Oui, et ils sont déjà sûrs que leur enfant a un RGO, le fameux RGO, qui mine les familles internes. Évidemment, c'est plus commode, on ne le voit pas. Donc à nous de faire le bon diagnostic pour ne pas passer à côté de quelque chose.
Alors docteur Fersdorf, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer notre plongée dans les nuits difficiles de certains enfants et donc de leurs parents. Comment gérer notamment les terreurs nocturnes, hein, par exemple, les problèmes de pipi au lit. En appliquant les bons conseils que l'on va vous donner sur Europe 1, on peut s'en sortir et toute la famille peut retrouver les doux bras de Morphée. Donc restez avec nous.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour, dans lequel on décortique les soucis de sommeil de nos enfants. On en parle avec un spécialiste, le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre et animateur à Strasbourg. Vous êtes également l'auteur des livres « Votre enfant de 0 à 16 ans et sans activité pour préparer nos enfants »
au CP
chez Atier Parents. Alors, parmi les soucis qui peuvent évidemment perturber les nuits de nos enfants, il y a les terreurs nocturnes. C'est quoi la différence entre les terreurs nocturnes et les cauchemars ?
Alors la terreur nocturne, ça touche plutôt les petits-enfants à partir de 3-4 ans. C'est un enfant, ça touche la période du sommeil profond ou paradoxal. Et c'est un enfant qui va être agité, qu'on va avoir du mal à calmer, qui part, il a les yeux effrayés. Il n'aura pas de souvenir de ça. Et puis tout d'un coup, il va s'endormir aussitôt et on passe à autre chose. Mm-hmm. Le cauchemar, ça intervient plus tard. C'est en général après 5-6 ans ou 4 ans, 5-6 ans. Ça intervient là aussi pendant la phase de sommeil paradoxal. Et c'est quelque chose dont l'enfant aura des souvenirs. C'est pas du tout pareil, c'est une parasomnie et c'est plutôt lié à un événement qu'il y a eu dans la journée ou la veille ou peut-être une semaine avant, un déménagement, des cris, des pleurs, un accident, une sirène de pompier, tout ce qu'on veut. Et tout d'un coup, il va y avoir un cauchemar. Et l'enfant, quand il se réveillera, parce qu'il se réveille lors du cauchemar, pourra avoir des souvenirs et pourra éventuellement en parler. Ce sont deux choses différentes.
Et
pas
pourquoi
tout à fait
les enfants font des terreurs nocturnes, alors si ça n'est pas lié à un événement qu'ils ont vécu
Alors, la terreur nocturne, on pourrait faire une émission là-dessus, c'est un sujet passionnant. À pas confondre avec les réveils nocturnes, c'est autre chose. La terreur nocturne, ça intervient toutes les deux ou trois heures, tous les deux ou trois cycles de sommeil. 30% pratiquement des enfants font des terreurs nocturnes. En fait, on peut dire, pour faire simple, que le cerveau de l'enfant se construit. Il a énormément de choses qu'il est en train d'assimiler, d'intégrer à partir de l'âge de, déjà quand il est beaucoup plus petit. La marche, la propreté, le langage, la connexion avec les autres, la socialisation, plein de choses. Il tombe, il apprend à pleurer moins, etc. Et toutes ces choses-là, il les accumule dans la journée, dans son cerveau émotionnel, en quelque sorte. Et la nuit, il n'a plus son néocortex pour gérer tout ça. Ça va un peu descendre de son grenier à émotions. Et en fin de cycle de sommeil, toutes les 60 minutes, toutes les 80 minutes,
ça déborde,
eh bien, ça va déborder, en quelque sorte, et il va être réveillé par ça avec des cris.
L'image est très claire. Hein. Comment on réagit en tant que parent si ça arrive? Parce que c'est difficile de les calmer. Ils ne sont pas là, on a l'impression, quand ils vivent une terreur nocturne. Non?
Alors là aussi, on pourrait faire une demi-émission là-dessus. Ça, c'est clair.
Peut-être
j'ai plein
une spéciale
pistes,
terreur nocturne.
Mais il y a des bouquins, j'en parle d'ailleurs dans l'un ou l'autre de mes livres. Le sujet, c'est qu'il faut être vigilant, laisser la porte ouverte, mettre une veilleuse dans le couloir, tout de suite aller voir l'enfant, ne pas le laisser pleurer en se disant c'est un caprice, ça va passer, parce que plus il va pleurer, plus il va perdre confiance. Par contre, il ne faut pas le réveiller. Il faut être tout de suite à côté de lui, il va sentir votre odeur, il va sentir votre présence. Éventuellement, si ça ne suffit pas, on met la main sur son ventre. Si ça ne suffit pas, on le caresse. Mais en tout dernier, on va le prendre dans ses bras. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va le réveiller. Il aura peut-être un peu de mal à passer dans le cycle de sommeil suivant. Mais ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est lui donner à manger la nuit. Sinon, après, on tombe dans un autre cercle vicieux.
Alors justement, en parlant de cercle vicieux, est-ce qu'on pourrait revenir quelques secondes sur les erreurs du coucher que vous retrouvez le plus souvent chez les parents épuisés ? C'est quoi les erreurs les plus communes ?
Alors, vous l'avez dit vous-même, Julia, parents épuisés. Quand on est épuisé, on est prêt à tout. Mais souvent, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'on est épuisé, justement. Et en plus, on n'est souvent pas d'accord, oui, les deux parents. Parce qu'on n'a pas la même opinion, on n'a pas le même ressenti, etc. Et puis, il faut reconnaître qu'un enfant se calme parfois plus facilement avec maman qu'avec papa, ou le contraire. Donc, tout ça, ça peut un peu... Voilà. Les choses à éviter, c'est de passer une heure à raconter des histoires qui vont trop stimuler l'enfant.
Le rituel du coucher, il est rapide.
Le rituel du coucher, on va passer du temps. On va mettre la pénombre dans la chambre quand on va l'emmener. On va pas lui dire c'est l'heure d'aller au lit. Si je vous dis à vous, adulte, souvenez-vous de cette parole qui est incrustée dans votre cerveau, dans notre cerveau, du genre va au lit.
Bah, j'ai plus envie d'y
aller. C'est un stress horrible.
Mais je
pour
dis
nous
quoi
adultes.
Alors je dis
Quel
quoi
que soit notre. On dit tu m'invites dans ta chambre.
Ah oui, c'est intelligent.
Et un conseil que je donne aux parents, c'est de rendre la chambre de l'enfant conviviale dans la journée. J'ai pas le temps de développer ici. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus, une visio là-dessus. C'est de passer du temps dans sa chambre dans la journée sans s'occuper de lui. On se met à terre, il joue, on est à côté, du coup il est détendu. Il sécrète pas de cortisol, il est tranquille. Et le soir, quand on va le coucher, on lui dit pas on va aller au lit. On refait la même chose, on se met cette fois-ci dans une pénombre, on se met à terre, on peut utiliser un matelas à terre de type Montessori, c'est très bien.
J'allais vous demander, il y en a qui n'ont plus de lit aujourd'hui,
c'est
des
très
enfants.
Bien,
et
c'est très bien le, ce genre
le
de matelas.
Le lit à barreaux, c'est pas bon.
Ah, le lit à barreaux, on peut commencer à s'en exempter assez tôt, hein, finalement. C'est pas mal comme technique.
Du coup, un an, par exemple, dès qu'il marche.
Oui, même avant, ouais. Même avant le lit à barreaux, on peut prendre un matelas à terre, même chez un nouveau-né, pourquoi pas. C'est toute une théorie, ça marche bien, on sécurise un peu la chambre, c'est pas mal du tout. Et du coup, l'enfant s'endort, il sécrète pas de cortisol, il sent que le papa ou la maman sont à côté. Comme on a pris l'habitude de ne pas s'occuper constamment de lui, on prend une petite veilleuse, on lit un bouquin, il va s'endormir, il va fabriquer la mélatonine, il va bloquer son cortisol et il va rentrer apaisé dans le sommeil.
Ah, pas mal.
Mais on s'endort avant les bébés, nous, parfois on aussi, parce que ça a l'air
bébés,
tellement
voilà.
Apaisant ce
bah,
que vous décrivez. Je
oui.
risque de m'endormir par terre à côté du lit, moi.
On a une question, hein, docteur. On a Samira sur Twitter qui évoque un autre problème, les problèmes de pipi au lit. Sa fille de 4 ans et demi n'est toujours pas propre la nuit et à la sieste. Est-ce que ça, c'est grave à 4 ans et demi?
Alors non, c'est pas grave. Il ne faut pas lui dire que c'est grave, parce que ça va devenir grave, du coup, dans son cerveau. Mais 4 ans et demi, un enfant a le droit encore de lâcher un peu, comme on dit, de ne pas encore maîtriser ses sphincters. Ça peut arriver. Là, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un sujet complexe, mais si c'est la nuit, si c'est une énurésie primaire, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'a encore jamais eu cette acquisition des sphincters la nuit.
C'est pas une régression,
quoi, en fait.
C'est
pas
ça.
Une régression. Ouais. C'est différent si c'est secondaire, c'est-à-dire s'il était propre avant. Enfin, propre, on n'aime pas tellement ce mot-là. Mais voilà, on en parle avec les parents, on voit l'environnement, parce que très souvent c'est d'origine psychologique. Et puis, on va mettre des rituels en place, on va arrêter de boire une heure avant d'aller au lit, on change le lit de place 90 degrés. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut
faire. Ça existe toujours, les petits soleils et les petits nuages, à mon époque.
Oui, alors c'est pour responsabiliser l'enfant. Quand on commence à faire un peu un traitement, par exemple avec des médicaments pour traiter une énurésie, mais après l'âge de 6-7 ans, eh bien on lui fait participer en dessinant un soleil le matin ou un nuage.
Quand la couche est propre, il n'y a pas de pipi au lit.
Mais
quoi,
sans mettre la pression, sans lui dire « Oh là là, il y a beaucoup de nuages là ». Là, on va le stresser et il va encore avoir plus de difficultés
c'est
à maîtriser ses sphincters.
C'est juste pour qu'il ait une vision d'ensemble un peu de sa progression, en fait.
Voilà,
c'est
une vision d'ensemble, mais c'est lui qui gère.
Une autonomie.
Et il ne faut pas être derrière lui en disant oh là là, oh là là.
Encore, il n'y a pas de commentaires.
On dit surtout pas de commentaires. C'est ce qui mine l'enfant, quel que soit son âge. Par contre, on lui dit bah, c'est top, c'est toi qui fais, et tu verras avec ton médecin. Ton pédiatre,
ça
le responsabilise, c'est mieux comme message.
Et donc Samira nous disait que sa fille n'était pas propre la nuit. Bon, on a compris qu'effectivement, en la responsabilisant à 4 ans et demi, c'est pas un drame, ça va arriver, bien sûr.
Oui.
Et elle dit aussi à la sieste, justement, puisqu'elle parle de la sieste, jusqu'à quel âge un enfant a vraiment besoin de faire la sieste? Alors l'école de la République nous dit qu'en gros, en moyenne section, c'est terminé, mais il y a des enfants qui dorment encore chez eux à 4 ans et demi.
Il y a des enfants qui ont besoin de sieste, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur enlever du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il y a des temps de repos à l'école. Alors plutôt qu'un moment de sieste, on parle de temps de repos et
temps
on sait
calme.
Bien, il y a tel et tel type d'enfant, on les met plutôt d'un côté et ils seront un peu, ils vont bouger mais on va leur demander d'être trop calme, et d'autres qui ont besoin de dormir. Et peu à peu, avec toutes les acquisitions qui se passent, le rythme de sommeil, l'accompagnement, la stimulation qu'il y a dans les acquisitions à l'école, ce temps de sieste va peu à peu disparaître vers 4 ans en moyenne. Et parfois, il peut y avoir un temps de sieste pendant le week-end, pourquoi pas.
Pour récupérer un petit peu ce qui manque de la semaine, ça on ne leur enlève pas. C'est important pour leur cerveau de faire cette sieste encore ?
Alors oui, il y a des enfants, on n'est pas égaux par rapport au sommeil, on le sait. Et il y a ce qu'on appelle la dette de sommeil qui peut s'installer. Donc chaque enfant a un rythme de sommeil que les parents, que les figures d'attachement doivent vraiment apprendre à connaître et à respecter.
C'est très clair. Merci beaucoup Dr Fersdorf. Je suis certaine que de nombreux parents vont tenter d'appliquer tous vos conseils, surtout pour les plus petits, dès ce soir, et vous seront extrêmement reconnaissants. Merci encore.
Oui, merci beaucoup docteur. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord les prescriptions du côté de la mode de notre spécialiste Sophie Braffman. Quelles sont les grandes tendances vestimentaires qui se démarquent déjà pour 2022? Elle nous dira tout. Ensuite, on écoutera les conseils sportifs de la coach Anouk Garnier. Aujourd'hui, elle va nous aider à raviver la flamme, à retrouver toute notre énergie sportive un peu perdue pour certains depuis quelques mois. Et enfin, on va terminer avec Edouard Dutour qui a décidé, lui, ce midi, de nous parler du retour du couple et de ceux justement qui vont peut-être nous faire rêver cette année. Il y aura donc un peu d'amour dans l'air dans quelques minutes sur Europe 1.